Sortir avec Maxime Despomerleau.
Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Merci de vous joindre à nous ce midi pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Aujourd'hui, notre émission met l'accent surtout sur le théâtre et le cinéma, car on parlera particulièrement de théâtre adapté aux personnes malentendantes ou malvoyante. Je reçois le président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, spécialisée en théâtrodescription. On dresse le portrait de l'artiste Amy Lou, cinéaste et activiste, et on a une suggestion théâtre des plus originales avec la pièce Jabber. Restez avec nous! Alors, j'accueille tout de suite mon invité en studio, M. Sylvain Noël, président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Bonjour.
Bonjour, Mademoiselle Pomerleau.
Rebienvenue dans nos studios. On vous avait reçu l'année dernière à peu près à la même date pour faire connaître une nouvelle production théâtrale de la troupe L'Envol.
Oui, effectivement, et nous vous en remercions grandement là, de nous donner cette visibilité auprès de vos membres de tout genre, naturellement. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup, Mademoiselle Pomerleau.
Ça nous fait plaisir. Avant d'aller plus loin dans justement parler de cette nouvelle production, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour présenter l'Académie théâtrale L'Envol de Laval et surtout ce en quoi elle est passée experte et le service qu'elle a développé et qu'elle veut mettre de l'avant, c'est-à-dire la théâtrodescription.
Oui, effectivement, l'Académie théâtrale L'Envol de Laval que j'ai fondée avec de la famille et des amis il y a maintenant 10 ans, se spécialise actuellement pour rendre accessibles nos œuvres auprès des personnes ayant des limitations visuelles. Allant de la visibilité, de la cécité légère jusqu'à la cécité complète. On a un narrateur qui explique aux personnes non-voyantes ce qui se passe sur scène, un petit peu comme ce qui se fait à la télévision, naturellement, là, avec la vidéodescription. Et cette expertise-là, nous l'avons acquise suite à la cécité de ma sœur, Sylvie Noël, qui est devenue complètement non-voyante en avril 2012.
Mais elle avait sans doute un désir de continuer à aller au théâtre, à faire des sorties culturelles, donc vous avez finalement pris son expérience personnelle pour pouvoir amener le théâtre et le rendre plus accessible à un plus grand public.
Exactement. Donc, étant donné que mon frère et moi, nous étions ses accompagnateurs, on s'est rendu compte qu'au niveau culturel, il n'existait absolument rien lorsqu'on a commencé à développer le concept en 2013, au niveau culturel, pour permettre aux personnes non-voyantes de comprendre ce qui se passe à l'écran ou sur scène. Donc, étant donné que j'étais à la tête d'une troupe que nous avions fondée à Laval, alors on s'est dit, bon, on va le développer, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, la Ville de Laval a emboîté le pas et la Ville de Laval nous supporte dans toutes nos opérations. Et c'est grâce à la Ville et à la clairvoyance de ma sœur qui nous a guidés dans le développement de la théâtrodescription. C'est de même qu'on est devenu, par la force des choses, en toute humilité, des experts de la théâtrodescription telle que nous l'appelons.
Quel équipement technologique est-ce que vous utilisez et qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui viennent voir les spectacles? Est-ce qu'on doit être équipé d'un appareil particulier, par exemple?
Écoutez, c'est ça qui est la beauté de notre concept. On est les premiers utilisateurs d'un système allemand, une firme internationalement reconnue, la firme Sennheiser, qui permet, entre autres, aux personnes ayant des limitations auditives à la maison d'avoir leurs propres écouteurs pour pouvoir le parfait contrôle du volume de leurs écouteurs qu'ils ont sur leurs oreilles. C'est une nouvelle technologie qui date d'à peine 2 ans. Et n'importe quelle personne qui a un téléphone intelligent, que ce soit Apple ou Android, peut aller télécharger l'application gratuitement, soit sur App Store ou sur Google Play Store pour Android. Et une fois qu'ils ont l'application sur leur téléphone intelligent, quand ils entrent dans les salles où nous sommes présents, à ce moment-là, ils s'intonisent via des ondes Wi-Fi et peuvent entendre la voix du narrateur ou la voix des comédiens dont chaque utilisateur a le parfait contrôle du volume, un petit peu comme à la maison.
Donc, ça peut être aussi utile pour des personnes voyantes, mais qui auraient besoin d'un accompagnement narratif, si on veut, parce qu'elles ont des problèmes d'ouïe.
Oui.
Ça peut être complémentaire.
Oh, absolument, absolument. On a des clientèles diverses. On a des gens de l'Institut Raymond Dewar, entre autres, là, qui viennent à nos productions, qui vivent avec de la surdicécité, donc qui sont à la fois non-voyants et malentendants. Et là, on a un canal exprès pour eux qui donne la narration et qui amplifie les micros de scène. Donc, ils ont le parfait contrôle de la voix des comédiens aussi. Donc, notre expertise dessert un large bassin de population, toute personne qui a des limitations visuelles, auditives ou les deux.
Et vous avez l'objectif en arrière de ça d'amener cette technologie-là dans d'autres théâtres?
Absolument. Écoutez, suite au succès que nous avons auprès des compagnies théâtrales amateurs et de la demande croissante des personnes qui ont des limitations auditives ou visuelles, nous sommes en train de démarrer une entreprise d'économie sociale qui s'appelle Connecté Services d'audio description. Nous avons l'ambition de vouloir démocratiser la culture, mais aussi d'accessibilité au sport. On a eu la chance d'avoir une collaboration avec le défi sportif Altergo l'an passé, où des matchs de hockey luge ont été décrits via notre système. Et défi sportif Altergo, Mademoiselle Vincelli, avec qui j'ai eu une conversation la semaine passée, m'a confirmé que notre collaboration va être renouvelée pour le défi sportif qui va avoir lieu du 24 au 30 avril cette année. Et nous envisageons aussi une collaboration pour leur 35e anniversaire l'an prochain. Donc, ça promet. Et c'est tout ça va relever de Connecter Services d'audio description.
Et pour en revenir à votre pièce qui prend l'affiche dans 2 villes, donc pas seulement à Laval, mais le 18 et 19 mars, c'est à Victoriaville, et à Laval, le 25 et 26 mars. Quelle est l'histoire de cette pièce qui s'intitule « Sous-sol à louer » ?
Ben, écoutez, « Sous-sol à louer », c'est une comédie, presque un vaudeville. C'est un défi que nous relevons, faire de la théâtrodescription dans un vaudeville. C'est l'histoire d'un gars sans le sou qui, tout ce qu'il a pour vivre en quelque part, c'est son sol qu'il a à louer. Donc, il le loue à 2 personnes en même temps, parce qu'il y en a une qui est là les week-ends et l'autre personne est là seulement dans la semaine. Et là, il arrive...
Je vois un conflit qui s'en vient à l'horizon.
Oui, exactement. La personne qui, normalement, doit être partie durant la semaine a une grève à Toronto et là, elle se retrouve habiter son sol. Et là, l'autre locataire arrive et là, le quiproquo qui entoure ça, c'est une vraie comédie. Et j'ai la chance moi-même d'y jouer un politicien fédéral dépravé qui loue lui aussi, je loue le sous-sol pour mes petits besoins personnels.
D'accord. C'est une excellente présentation. Oui. Pour cette nouvelle production, justement, vous êtes allé encore plus loin dans la théâtrodescription. Vous avez invité les comédiens à se présenter et à décrire leurs personnages. Ce sont aussi des capsules qui sont disponibles en ligne. Et donc, ça permet d'avoir une expérience encore plus complète. pour le spectateur.
Effectivement, on est toujours à l'affût d'offrir un meilleur service aux personnes ayant des limitations visuelles. Alors, nous avons décidé pour notre 10e anniversaire d'aller plus loin dans notre expertise. Et chaque comédien, dont moi, nous avons été pré-enregistrés le descriptif de chacun de nos personnages. Il est disponible. On peut l'entendre sur notre site Internet. Alors, les personnes non-voyantes peuvent déjà se familiariser avec la voix de chaque personnage. Donc, quand les personnes non-voyantes vont arriver en salle, ben quand moi, je vais me mettre à parler, ils vont dire « Ah, ben lui, c'est député Rochette. » Donc, on va déjà pouvoir m'identifier.
Mm-hmm. En terminant, je sais que vous mettez de l'avant, vous êtes très impliqué dans la communauté et vous avez un sondage qui a lieu actuellement. Avec Canal M, on souhaite le faire connaître davantage, que vous puissiez rejoindre plus de gens. Et ce sondage est « Seriez-vous intéressé à participer à des activités de loisirs si elles étaient accessibles universellement? » C'est quoi, c'est une grande question, c'est quoi votre objectif avec ce sondage-là? Pourquoi vous avez besoin de faire un sondage?
Bien, écoutez, puisque je vous l'ai dit tantôt, nous sommes dans le pré-démarrage de l'entreprise d'économie sociale connectée service d'audio description. Et comme toute entreprise qui commence, nous devons démontrer la faisabilité et la rentabilité de cette entreprise-là. Alors, le sondage a pour but de recueillir les intentions des personnes non-voyantes et malentendantes s'ils avaient accès à de la culture adaptée, s'ils iraient, jusqu'à combien d'argent ils seraient prêts à mettre, jusqu'à combien de kilomètres ils seraient prêts à se déplacer pour avoir accès à de la culture accessible. Donc, ce sondage-là est d'une une importance, je dirais, là, sans prendre de grandes déclarations, d'une importance capitale, parce qu'on se doit de démontrer aux investisseurs sociaux que la théâtrodescription, elle a de l'avenir. À 300 000 personnes non-voyantes et malentendantes au Québec, moi, je le sais qu'il y a de l'avenir, mais il faut le documenter. Et le sondage a pour but de documenter cette étude de faisabilité-là. Donc, il va être important qu'il soit rempli par un très grand nombre de personnes.
On va le partager sur notre page Facebook de Canal M. Merci beaucoup de nous faire prendre conscience de cette réalité aussi. Merci de vous investir pour rendre la culture théâtrale plus accessible. Sylvain Noël, vous êtes président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Vous avez des spectacles qui s'en viennent ce week-end, le week-end prochain. Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios et bon succès.
Merci beaucoup, Mademoiselle Pomerleau.
Dans une caverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers, voix criblée de joie montait de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter. C'était le temps des fleurs, on y vient.
Alors, Le Temps des fleurs, un classique de Dalida, reprise cette fois-ci par Dear Criminals pour la trame sonore du film Nelly d'Anémon. Le groupe était en spectacle à l'usine C hier et en supplémentaire ce soir, en collaboration avec Jérémy Niels. Dear Criminals, qui multiplie les collaborations au théâtre, en performance et au cinéma, je vous invite chaudement à les découvrir. Alors, Amy Lou, qu'on rejoint à Vancouver, une de nos collaboratrices culturelles. Que fais-tu à Vancouver, Amy?
Salut, Maxime. Mais en fait, je fais la recherche pour une série de vidéos dont je travaille présentement. Donc là, j'ai deux raisons d'être ici. Un, de faire le travail, puis deux, d'éviter l'hiver.
C'est vrai, éviter l'hiver montréalais. On va plutôt se réfugier dans l'Ouest canadien. Aussi Vancouver, qui est en soi une ville très accessible. Amy, vous êtes artiste, cinéaste et activiste, notamment au sein du mouvement féministe et de la défense des droits des personnes handicapées. Vous travaillez actuellement, donc, comme vous venez de nous dire, à une série de vidéos. Mais aujourd'hui, on se parle parce que vous avez réalisé un court-métrage intitulé « My Shoreline » et qui sera présenté au Leeds Queer Film Festival à Londres, qui a lieu du 24 au 26 mars. Parlez-nous de votre film.
C'est un film que j'ai fait l'année passée. En fait, c'était en partie de mon travail pour ma maîtrise que je fais à Concordia. Mm-hmm. Et c'était vraiment simple, le principe. C'était de juste essayer de me rendre au bord de l'eau à Montréal. Donc, au début, je me disais, OK, je vais essayer d'aller près de chez moi à NDG. Puis là, vu que les autobus n'ont pas les bonnes routes pour se rendre vers l'eau, et vu que la station Vendôme à Montréal, c'est pas accessible encore, j'ai décidé de prendre le 104 puis le 24, d'aller près du vieux port, puis après rouler avec ma chaise roulante vers le vieux port. Mm-hmm. Donc, c'est assez simple. Puis c'est un film que j'ai fait avec mon cellulaire parce que j'avais pas ces temps-ci la technologie mobile pour faire les films. Là, j'ai un peu plus de technologie, mais à ces temps-ci, c'était juste avec mon cellulaire. Donc, c'était l'hiver passé, donc ça faisait vraiment froid. Puis je me suis rendue vers le station, l'arrêt d'autobus. Puis en fait, commençait très bien. L'autobus n'était pas accessible. Donc, ça faisait trois autobus qui ont passé. Puis finalement, j'ai réussi de prendre l'autobus dans le métro de moins 15. Puis quand c'était le temps de prendre le deuxième autobus, celle aussi était pas accessible. Donc, c'était un peu le début du film, mais c'était juste en partie du film.
Mais justement, parce que le film s'ouvre d'abord sur une image de vous qui enlevez votre peignoir avant d'aller dans la piscine. Faire plusieurs longueurs. Et puis après, on se retrouve plutôt justement à l'extérieur où vous tentez de vous rendre au bord de l'eau. Vous acceptez de montrer des moments de vulnérabilité, de frustration aussi dans le film. Est-ce que c'était difficile à tourner? Est-ce qu'il y a des choix esthétiques ou narratifs que vous avez faits?
En fait, quand j'ai fait le tournage, c'était un peu ma genre de thérapie, Maxime. Quand ces choses arrivent, quand on n'a vraiment pas de contrôle dans notre mobilité et dans nos vies quotidiennes, pour moi, c'est là où je trouve mon art. Donc, c'est un peu ma thérapie, en fait. Mais là, quand je revois le film, c'est difficile à voir parce que ça m'apporte dans ces émotions, ces frustrations-là. Mais pour moi, cette film-là, c'était vraiment de montrer, mon but était de montrer la liberté complète que je me sens quand je suis dans la piscine, quand j'ai accès de l'eau et quand c'est la liberté de mobilité, mm-hmm. en contraste avec le monde extérieur à Montréal où c'est vraiment, vraiment pas accessible et, mm-hmm. et capacitiste, en fait. Ouais.
Et pour vous, comme artiste, est-ce que c'est important de prendre position, justement, publiquement sur ces enjeux-là?
Oui. Mais pour moi, c'est...
ça vous nourrit, ça vous nourrit d'une certaine manière?
Oui, et aussi, si je pris pas position, spécialement sur cet enjeu-là, je me sentirais pas honnête, en fait. Parce que mm-hmm. pour moi, quand j'écris ou je fais les vidéos, c'est important pour moi de montrer ma réalité à moi et de ma communauté dans un certain sens. Et si je parlais pas de transports très inaccessibles ou les comportements du public qui sont très capacitistes des fois, mais je me sentirais pas très honnête, en fait. Donc, je pense pas quand je commence un projet de dire, OK, là, avec ce projet, je vais faire un point très politique. Non, c'est pas comme ça que je déroule, mm-hmm. mais vu que c'est une grande partie de ma vie quotidienne et de ma perspective, en fait, comme personne handicapée, là, c'est pour ça que je prends position, en fait.
Mm-hmm. Ouais. Vous vous investissez aussi dans d'autres projets, notamment en écriture, avec mm-hmm. votre blog et le zine The Underwater City Project. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, mais en fait, ce projet-là, ça a commencé en 2014, notamment avec mon blog qui est underwatercity.ca. Et j'avais en tête de faire un tour des villes au Canada pour parler avec les activistes, les gens handicapés dans ces 5 villes-là, pour faire un peu de comparaison entre les villes, comment les gens habillent, comment les gens vivent, comment les systèmes, les infrastructures marchent ou pas, pour vraiment prendre la parole de nous-mêmes comme personnes handicapées, parce que souvent on entend les histoires par les médias ou par les politiciens qui sont pas vraiment accurants, je veux dire. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un voyage en 2014 pour faire les entrevues avec les personnes handicapées, pour vraiment parler de leur vie dans leur milieu de vie. Et là, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de choses écrites que je voulais partager, tu sais. En fait, c'est pour ça que j'ai fait le zine avec un petit stipend de Cooper McGill. Mm-hmm. Et là, c'est juste commencé comme ça.
Il y a eu quelques numéros du zine comme tel qu'on peut aussi retrouver en ligne. On va mettre des liens sur la page Facebook de Canal M, évidemment. OK. Amy Lou, on vous souhaite vraiment un bon succès avec My Shoreline, qui a été quand même présenté dans quelques festivals. Un jour, on y aura peut-être accès donc en ligne ou ici à Montréal. Pour le moment, il s'en mm-hmm. va au Leeds Queer Film Festival du 24 au 26 mars. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, Maxime. À plus tard.
À bientôt. On arrive tout près de la fin de notre émission. Juste le temps d'aller consulter nos collaborateurs qui peuvent nous soumettre des suggestions sorties. Cette semaine, on met la lumière, en fait, sur une initiative montréalaise de la communauté anglophone. Et c'est proposé par Laurence Parent. Bonjour, Laurence.
Bonjour, Maxime.
Merci de collaborer une fois de plus à Canal M. On sait que tu es dans nos étoiles gravitantes autour. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle?
On parle d'une pièce de théâtre qui va être présentée par Seeing Voices. Ça, c'est un regroupement d'artistes qui communiquent en langue des signes québécoise ou en américaine. Sign language, qui est comme la langue des signes utilisée par les gens au Canada et aux États-Unis. Mm-hmm. Puis donc, de la communauté sourde, dans le fond, puis c'est un groupe, dans le fond, qui veut mettre en relation par des collaborations entre les personnes sourdes et les personnes entendantes. Puis, ils présentent une pièce de théâtre le 25 mars prochain.
Au Monument national. Si c'est bien ça. Et la pièce s'intitule Jabber. Est-ce qu'on peut faire un court résumé? C'est une pièce qui est présentée en anglais. Il faut quand même le spécifier pour le public qui va y assister. Mais donc, l'histoire tourne autour de quoi?
En fait, l'histoire va être présentée en anglais et en American Sign Language. Hein, mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. C'est comme accessible à un public entendant et un public sourd. Donc, c'est une histoire, en fond, de trois acteurs. Une jeune adolescente dans une école secondaire, une adolescente qui est née en Égypte, qui porte le hijab et qui vient juste de changer d'école parce que, bon, c'est ses parents qui ont pris cette décision-là parce que son ancienne école, il y avait eu un graffiti sur lequel on pouvait lire « Tous les musulmans doivent mourir hein, ». Donc, on peut comprendre le problème avec ça. Donc, ses parents ont décidé de la changer d'école. Puis, le directeur de la nouvelle école essaie de tout faire pour que Fatima, qui est le nom de l'adolescence, se sente intégrée, là, comme on pourrait dire dans le langage utilisé. Là. Mm-hmm. Puis, il lui donne un conseil. Il lui dit, je donne un conseil, reste loin de Jora. Parce que lui, bon, cet adolescent-là aurait un comportement hérité de son père qui est présentement en prison quand il avait battu sa mère, donc un passé violent. Mais évidemment, là, ce qui se passe, c'est que Fatima et Jora, finalement, commencent à très bien s'entendre. Donc, c'est ce que
C'est un bon résumé quand même. Beaucoup d'enjeux qui sont abordés. Une question sur l'inclusion. Merci beaucoup, Laurence Parent, de nous avoir proposé cette sortie. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur Facebook Seeing Voices Montréal. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie tous mes invités d'avoir été présents avec moi. À la mise en onde de Jean-Sébastien La Liberté, thème musical de Yannick Roberge et François Lemoine. C'était Maxime Despomerleau pour Sortir. À bientôt.